Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Bienvenue pour Goodux Paris, l'édition du week-end. Et oui, vous le savez, désormais, Goodux Paris, c'est tous les jours de la semaine en direct entre 13h et 15h. Et quand arrive le week-end, je retrouve enfin mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur des éditions Jaloux. Et ce week-end, Emmanuel, eh bien, on s'installe à l'hôtel. Et oui, une fois n'est pas coutume. Il faut dire que les palaces parisiens sont un petit peu à la peine en ce début d'année 2016. Mais en revanche, les propositions alternatives se multiplient. Le secteur de l'hôtellerie parisienne haut de gamme n'a jamais été aussi prolifique. Démonstration dans un instant avec Samy Marciano, propriétaire de l'hôtel Bachaumont, c'est dans le deuxième. Michel Delois, propriétaire du Coq Hôtel, dans le 13e. Olivier Carvin, c'est le Déclic Hôtel, dans le 18e arrondissement. Et Valérie Grégo, propriétaire de l'hôtel Le Pigalle, dans le 9e arrondissement de Paris. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Goodelux Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et alors, Emmanuel, on commence ces nouveautés par un comeback.
Un gros comeback, si je vous dis le Moulin de la Galette.
La Moulin de la Galette, ah oui, c'est pas tout jeune ça.
Pas tout jeune. Alors, adresse cultissime s'il en est, un épicentre de la vie montmartroise. On peut dire que c'était vraiment la tresse fétiche de la République, puisque je vous rappelle que Montmartre est une république. Simplement, durant l'âge d'or, 19e, le Moulin de la Galette, c'est une adresse culte. Ça va durer jusqu'aux années 70, avec Dalida, toute la clique du showbiz. À partir des années 80, c'est déjà moins bien. 90, plus du tout bien. Dans les années 2000, comment dire, c'est l'adresse fétiche des chroniqueurs gastronomiques. Ils y vont comme à la kermesse. C'est un jeu de flingage. On sait que c'est toujours raté. Mais là, depuis quelques temps, c'était repris fin décembre et c'était drôlement bien repris. D'abord, le lieu reste quand même magique, installé comme ça en haut de la colline. Ils ont rafraîchi le décor et la cuisine. Ils ont demandé à un jeune ancien de chez Ferrandi de venir l'orchestrer. Il a compris qu'il fallait faire simple. Réduire la carte, s'appuyer sur les produits et travailler. Ce qui va bien finalement au Moulin de la Galette, c'est presque un petit côté guinguette, un guinguette très amélioré puisqu'on est dans le produit brut de décoffre et surtout travailler à la braise. La cuisine à la braise, elle a été la grande tendance de 2016. Tous les restaurants en parlent aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un peu le barbecue mondain, le barbecue citadin. Et là, il y a des très très belles viandes, pas simplement, aussi quelques poissons. Alors, belle extraction, hein, des viandes de chez Olivier Metzger, de chez Jean-Louis Porte, quelques-uns des meilleurs faiseurs parisiens, et travailler dans leur plus simple appareil. Onglet de bœuf, Black Angus, côte de bœuf d'Écosse, cœur d'entrecôte argentine, tout cela bronzé pile face. C'est très simple, c'est ce qu'on demande à cette adresse. Et puis après, ben effectivement, la magie réopère parce qu'il y a un vrai joli lieu. Et puis, on retrouve un petit peu l'esprit, ma chère à Montmartre, avec le Coquericot, dont on parle souvent ici, qui est tout près. Ça fait au moins deux belles adresses du côté du 18e.
Retournez donc au Moulin de la Galette. Une nouvelle adresse, en fait pas véritablement une nouvelle adresse, une adresse qui existe déjà, mais c'est une nouvelle adresse Relais et Châteaux, vous savez, estampillé Relais et Châteaux. Il y en a 5 nouvelles qui ont fleuri chez Relais et Châteaux en fin d'année, dont une adresse par exemple. Ceci, c'est une adresse un petit peu cachée. Est-ce que vous connaissez le Marquis Faubourg Saint-Honoré? C'est 8 rue d'Anjou dans le 8e, c'est complètement planqué. Vous avez une porte cochère avec des lanternes à l'entrée dans les beaux quartiers, donc une cour intérieure, et on est dans un hôtel quand même particulier du 18e, où vécu, excusez du peu, le marquis de Lafayette. Donc du coup, c'est le grand genre, les petits coussins avec les couronnes, les bibliothèques, les cheminées en marbre Louis XVI. Ouais, tout à fait discret. L'architecte et designer qui a revu un petit peu quand même tout ça dernièrement, c'est Michele Bonanne. Et voilà comment redécouvrir cet hôtel qui est complètement planqué dans la rue d'Anjou. Ça s'appelle le Marquis Faubourg Saint-Honoré et il fait désormais partie des Relais et Châteaux. Allez, Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, Web de Luxe.
Et nous sommes ravis de retrouver Sandy Prenoir. Bonjour Sandy, comment ça va?
Nickel.
Et nickel sur le web?
Bah oui, sur le web, sur les applications, tout. D'abord cette application pour les Parisiens pressés. Alors professionnels en vadrouille, touristes, c'est une application qui a vu le jour en décembre, ça s'appelle YoCab. C'est un service de taxi, de moto-taxi de luxe qui met d'abord en avant le confort des usagers, mais aussi des pilotes et des partenaires. Je m'explique. D'abord des modèles de moto ou de maxi-scooter très sur le volet, alors là je vais pas faire genre, je me la raconte. Il y a une Honda Goldwing 1800 et une Suzuki Bergman 650. Vous faire genre comme ça, genre, ben oui, c'est connu.
Mais c'est large, c'est confort,
c'est hyper confort. Les sièges. confort. Les sièges sont tous chauffants. Évidemment, il y a tout ce qu'il faut contre les intempéries. Quoi d'autre? Un service aussi premium mis en place par Yocab qui va traiter directement avec les professionnels du tourisme et des hôtels de luxe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, un concierge dans un hôtel de luxe va pouvoir prendre rendez-vous directement avec un pilote Yocab et permettre au client de se faire rappeler directement sur son portable dès que la moto est en bas de l'hôtel. C'est plutôt pratique. Évidemment, la possibilité pour les usagers de noter les pilotes. Et puis, un système qui est très avantageux aussi du côté des pilotes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, ils vont plus aller chercher des clients un peu partout, à droite, à gauche. Et ils vont bénéficier de cette plateforme. Ils vont pas racoler. Ils vont bénéficier de cette plateforme qui s'occupe de tout pour eux, à moindre coût. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les courses, eh bien, ils les touchent pour... quasiment intégralement, ce qui n'est pas le cas dans tous les taxis, les mototaxis.
C'est bien parce que la guerre entre les taxis Uber était à peu près apaisée.
Il va y avoir la guerre entre les mototaxis et Yocab.
Merci.
Non, il n'y en a pas tant que ça, hein, des mototaxis. Non, c'est une très belle application, très beau site, Yocab, vraiment à découvrir. Ouais, c'est une belle start-up.
Allez, on continue avec Gentleman London.
Oui, alors là, c'est un site dans lequel on rentre et on a directement cette citation. Je vous la lis. Un homme capable de dominer un dîner londonien peut dominer le monde entier. C'est de... Oscar Wilde.
Moi, j'ai toujours lu, hein.
Qu'est-ce qu'on voit sur ce site? Eh bien, des produits de rasage, il y a aussi des produits en cuir, il y a des bougies parfumées. Voilà, c'est l'univers du gentleman qui est censé vivre à Londres. En réalité, il peut vivre à Paris ou partout.
Dans le monde, puisqu'il
y a une livraison à l'international. Il y a un club aussi, sur lequel on peut s'inscrire dans ce club pour bénéficier des offres privilèges, être tenu informé des événements et tout ça. Et puis, il y a un blog qui est plutôt bien fait. Alors, évidemment, on est souvent renvoyé aux produits qu'on trouve sur le site, mais on peut redécouvrir aussi des beaux objets, et notamment cette Jaguar Type E. Moi, j'étais complètement fascinée quand je l'ai vue. J'étais là, oh, waouh, je la veux.
Est-ce que vous avez dit waouh, je la veux quand vous êtes allé sur le site de la maison italienne Trussardi vous propose quelques underwear masculins?
Je me suis pas dit que je les voulais, les underwear. Par contre, les hommes,
pourquoi pas?
La maison Trussardi, vous la connaissez, hein, on a de l'accessoire généralement bagage, des vêtements hommes, femmes, etc. Là, c'est une première. Ils vont proposer de l'underwear masculin, donc avec les marques Trussardi Jean pour la lingerie, la marque Trussardi pour la lingerie de nuit, un choix de chaussettes également pour les hommes. Ça marche très bien, puisqu'en fait, c'est les deux marques qui fonctionnent le mieux dans la maison Trussardi, a priori, commercialement parlant. Voilà. Et donc, ça vient d'être lancé. C'est accessible depuis le site Trussardi ou depuis underwear.trussardi.com.
Merci Sandy. Très en forme, on se débat en 2016.
La moto,
les hommes. Ça, vous avez raison de pouvoir les choses du bon côté.
T'as raison, tu sais, femme-là.
Merci infiniment Sandy, à la semaine prochaine. Allez, une boutique, Emmanuel.
Alors, rapidement, c'est la quatrième boutique pour Paul Smith à Paris. Alors, c'est une belle histoire, Paris et Paul Smith, parce que ça fait 40 ans finalement qu'il présente deux fois par an ses collections dans la capitale française. Il a commencé par une première boutique, c'était boulevard Raspail, puis une autre rue de Grenelle, rue de Faubourg-Saint-Honoré. Et là, il revient un peu à ses premières amours londoniennes. Je m'explique. On est dans le Marais, rue Pastourelle, dans une ancienne galerie d'art. Et lorsqu'il a commencé à Londres, à Notting Hill, Paul Smith, c'était marrant parce qu'il avait 3 mètres carrés de boutique. Et tous les jours, il réactivait sa boutique en la réorchestrant lui-même. Là, il est un peu plus large, un peu plus truc, mais il a gardé l'idée qu'il aime beaucoup. Vous savez que c'est une mode très colorée, très esthétisante. Et il joue ce qu'il faisait à l'époque à Notting Hill, c'est-à-dire ça va être un décor modulant. C'est évolutif, ça. Il va faire appel à des artistes qui, tous les mois, vont un petit peu réhabiller ce décor de boutique. C'est bien dans l'esprit londonien et Paul Smith. On dit qu'au printemps, tout ça sera quand même un petit peu calmé dans le jeu et il y aura un décor définitif. En tout cas, un quatrième Paul Smith à Paris. Pour une fois que j'ai du bien des Anglais, on ne va pas me le reprocher.
Et puis, puisqu'on va beaucoup parler d'hôtels dans cette émission, un Ecolodge de luxe en plein Paris. En fait, il y a déjà un Eden Lodge Madagascar, élu meilleur hôtel durable au monde 2014, attention. Et désormais, ils ont eu l'idée de faire la même chose dans Paris. Alors attention les yeux. C'est-à-dire une maison particulière zéro carbone, en fait, où il y a vraiment tout ce qui fait le développement durable d'aujourd'hui. Je vous passe la chaudière à granulés à bois, la récupération des eaux de pluie, tutti quanti. Et quand on entre, ça fait quoi? Ça fait 500 mètres carrés, c'est pas énorme. En fait, on a plutôt l'impression d'être dans une maison d'hôte. Grande baie vitrée partout, ossature bois bien entendu, petit jardin quand même bien arboré. 3 chambres de suite.
Dont la suite Ségolène Royal.
Non, il n'y a pas de suite Ségolène Royal. À partir de 250 €, sauf que vous êtes quand même au milieu des immeubles.
Donc
c'est toujours assez étonnant parce que vous êtes 175 rue de Charonne dans le 11e arrondissement.
Oui, effectivement.
Alors, le concept en lui-même est très réussi. Après, voilà, c'est un petit peu le.
On voit que ça bouge,
la confusion des gens. Alors, et je termine par l'objet de la semaine. Les objets de la semaine. Et quels objets? C'est une nouvelle marque. Je ne vous en présente pas tous les jours. Surtout celle-ci, c'est une nouvelle marque de cosmétiques qui s'appelle Shaling. Shaling, ça veut dire l'esprit du thé. Je vous raconte l'histoire. Le patron de Guerlain, Laurent Boileau, lui-même, y travaille dessus depuis près de 3 ans. Elle est lancée ce week-end au bon marché. Il va y avoir un petit pop-up store dans quelques jours. Une marque donc développée véritablement comme une start-up dans l'incubateur de Guerlain, marque du groupe LVMH. C'est un petit peu le Shangxia de Guerlain.
Shangxia, c'est la marque d'Hermès.
Voilà, c'est une marque franco-chinoise où on raconte une histoire franco-chinoise, où on mélange des savoir-faire franco-chinois. C'est une gamme de cosmétiques haut de gamme à partir du thé puer, P-U-R, de la région du Yunnan. C'est le thé le plus miraculeux. C'est vraiment l'origine du thé. Donc des propriétés antioxydantes, feuilles séchées, mais aussi des galettes fermentées, parce que là, il y a un vrai savoir-faire. On purifie, on détoxifie, on hydrate, enfin on fait tout ce qu'il faut. Et puis, c'est assez simple d'utilisation. C'est des produits pour les différents moments de la journée. Vous prends par exemple cette petite poudre nettoyante infusée au thé puer. On vous dit comment faire, on vous dit que c'est pour le matin et le soir.
D'accord.
Mais vous avez toute une gamme de produits. Là, il y a un petit passo, c'est assez simple. Vous avez aussi des savons, des choses pour le bain. Oui, parce que l'idée, c'est de faire, voilà, on fait des produits d'entrée de gamme jusqu'à des produits, c'est 20 à 250 euros.
Ah oui, quand même.
Et 250
euros, qu'est-ce qu'on a
avec, parce qu'il y a des sérums très pointus. Et vous avez justement aussi théière, du thé,
on peut quand même infuser ce thé,
bougies, etc. Vous avez des petits coffrets. Il y a vraiment pas mal de choses avec une magnifique esthétique qu'on voit sur le bord de cette boîte que l'on retrouve dans les corners et boutiques. Donc au bon marché, ça sera du 11 au 23 janvier au bon marché. Le lancement du e-commerce, ça sera le 18 janvier. Et puis l'idée de développement durable toujours dans tout ceci. C'est-à-dire le moins de packaging possible. Quand je vous présente ce sérum, vous voyez, aspect céramique blanche, parce que voilà, on est quand même dans l'esprit chinois. On évite le packaging superflu. Et surtout, protection de la forêt, d'où viennent ces feuilles de thé. Ça commence par une rencontre avec un botaniste et sa femme qui veut préserver une partie de cette forêt du Yunnan qui produit ce fameux thé puer. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on a des marques comme celle-ci.
Mais à chaque fois que je me laverai les mains avec le savon, là, je
le
pense
savon
à ce que vous m'avez raconté.
Voilà.
Ça mène loin et longtemps. Hein.
Voilà, exactement.
Mais le thé puer, c'est vrai que les théophiles du monde entier considèrent que c'est l'une des crues, l'un des terroirs de thé parmi les plus remarquables. Alors, est-ce qu'il a des vertus esthétisante ou de bien-être,
verrez,
je sais pas,
je
mais je
suis
pense.
Transformée la semaine prochaine.
Ah bon,
Emmanuel.
Vous allez faire un test cobaye pendant une semaine.
Voilà, cobaye pendant une semaine. Mmh. Allez, on y va, on vous l'a dit, justement, pour prendre un bain, bah, on va se poser à l'hôtel, c'est la thématique du jour.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et quand l'hôtellerie design et indépendante investit les quartiers qui montent de la capitale, Goudelux lui consacre une émission. Vous allez voir, on va vous faire un petit tour de la capitale. Nous sommes en compagnie de Michel Deloy. Bonjour.
Bonjour.
Propriétaire du Coq Hôtel. On est dans le 13e arrondissement de Paris. On poursuit notre petit balade. Olivier Carvin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du groupe Maranatha. Vous, c'est le Déclic Hôtel et on est dans le 18e arrondissement de Paris. On passe au 2e arrondissement de Paris avec Samy Marciano. Bonjour.
Bonjour.
C'est l'hôtel Bachaumont, rue Bachaumont. Et Valérie Grégo, bonjour.
Bonsoir.
Propriétaire de l'hôtel Le Pigalle. Là, on est dans le 9e arrondissement de Paris. Et ben, c'est peut-être la première question que je vais vous poser, messieurs. Pourquoi ce quartier? Pourquoi cet arrondissement? Valérie Grégo, on reprend le tour dans l'autre sens. Mm-hmm. Pourquoi le 9e?
Pourquoi pas?
Ben oui, bien sûr.
Non, mais c'est vrai que Pigalle, c'est quand même le quartier qui monte, qu'on n'attendait pas, qu'on n'attendait plus. Depuis 4-5 ans, c'est devenu, même y compris en termes d'hôtellerie,
l'hôtellerie
fétiche de Paris.
Il y avait un choix chez nous, c'était de trouver d'habiter un quartier qui avait une forte identité. Il y en a d'autres, hein, il y a Pigalle, il n'y a pas que Pigalle, mais Pigalle a ça pour lui d'avoir une identité très marquée. Et ça, c'est quelque chose qu'on voulait traduire dans notre langage d'hôtelier, quoi. Donc Pigalle, parce que ça a une forte personnalité, ça aurait pu ne pas être Pigalle, mais c'était un choix.
Parce qu'on y reviendra tout à l'heure, mais vous avez fait collaborer tout le quartier, en fait, dans cet hôtel.
Là, c'est aussi pas tout. Quartier,
pour... Non, juste quartier, pour... Voilà.
Ouais. Mais c'est vrai que chez vous, là, dans cet hôtel, on va y revenir, l'idée de quartier, c'est pas simplement un emplacement, c'est pas simplement la rue Frochot, c'est aussi toute l'humanité qui l'accompagne. Mm-hmm. On y revient. Allez.
On poursuit notre petit tour. Rue Bachaumont,
quartier
18 rue Bachaumont, dans le deuxième arrondissement. Vous avez investi une ancienne clinique, en plus. C'était osé. Samy Marciano, pourquoi ce lieu, pourquoi ce quartier?
Écoutez-moi, c'est très simple, puisque je suis issu du textile, de l'industrie du textile, et je connais ce quartier que depuis 35 ans, et que je trouve que c'est d'un des plus beaux quartiers.
Le textile, ça marchait moins bien?
Non, ça a très 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 bien marché, mais on est dans une autre époque et je voulais essayer ma chance dans un nouveau modèle business qui est l'hôtellerie, dont j'ai démarré à Londres déjà avec ça. Et je trouvais que la rue Bachaumont méritait d'avoir un super petit hôtel avec bar, restaurant, un lieu de vie qui peut accueillir tous les showrooms autour. Et on s'est adressé spécialement aux gens de la mode, du design et de la communication.
Ouais, parce qu'on reste quand même dans l'esprit, on rappelle, hein, la rue Bachaumont, c'est une des petites rues, des petits bras morts discrets de ce qu'on appelle le quartier Montorgueil, mais plus connu parce que c'est le quartier du Sentier historique. Alors pendant longtemps, c'était le quartier le plus impraticable de Paris puisque c'était le quartier du Sentier, on ne pouvait pas rouler. Absolument. Il a beaucoup changé. On va raconter d'ailleurs pourquoi ces hôtels s'investissent. Ils s'investissent ces lieux-là parce que les quartiers eux-mêmes changent. Et on va voir comment Bachaumont aujourd'hui finalement raconte encore beaucoup de ce quartier, un peu de la mode mais plus la même mode.
Oui, écoutez, le quartier dans l'absolu, c'est un très beau quartier. Bon, comme il l'a ainsi bien dit, c'est un quartier qui a été utilisé dans la mode. Il y avait les rues principales qui étaient la rue du Caire, Saint-Denis et le reste.
Et
toutes les petites rues autour, elles servaient pour les petits commerces ou les petits intervenants. Et actuellement, comme tout le monde le sait, la mode, elle a subi une crise structurelle. Et le quartier du Sentier n'existe plus.
Non, c'est la Chine maintenant.
Oui, voilà. Alors, ça fait que le quartier, il est resté très beau. C'est le centre de Paris. Il y a une très, très, très belle clientèle qui est venue habiter. Par conséquent, il y a une vie exceptionnelle dans ce quartier. Et tout le monde adore venir. Et tous mes amis qui ont l'habitude d'aller dans le 7e ou le 8e, ils trouvent ça exceptionnel d'avoir découvert un quartier qui leur fait encore quelque chose.
C'est la nouvelle canaillerie parisienne.
Absolument.
C'est ça qui est intéressant, parce que ça dit quelque chose aussi de la sociologie parisienne. Ce sont des quartiers qui changent aussi grâce aux habitants, puisque vous êtes tous aussi tournés vers les Parisiens. On continue notre petit tour de table. Olivier Carvin, avec Maranatha, vous avez plutôt l'habitude du sud, vous avez déjà aussi goûté un petit peu à Paris, mais alors là, vous osez carrément, vous allez dans le 18e pour le Déclic Hôtel. Oui. On va donner l'adresse, c'est 17 rue du M.
Exactement.
Pourquoi là-bas?
Alors déjà parce qu'on connaît bien là-bas, puisque c'est Montmartre, on a déjà un hôtel sur Expérience Montmartre Mon Amour qui est juste à côté, donc ça permet, et un autre rue d'Ordonnère, donc on connaît bien le quartier. Montmartre, c'est les couples romantiques, c'est donc des expériences, tout à l'heure expériences, donc ça nous paraissait être une bonne formule. C'était aussi une opportunité, c'est une ancienne clinique, donc on a transformé en hôtel, donc c'est deux cliniques, voilà, une ancienne clinique soins palliatifs, 35 chambres qui est passée en 24 chambres d'hôtel. On ouvre là dans 15 jours sur le thème de la photographie. Le Déclic Hôtel.
On va voir justement ces hôtels thématisés. Ah. Et alors là, plus inattendu, parce qu'en fait, 18e, comme vous dites, c'est Montmartre, il y a quand même toujours une petite histoire d'hôtel. On peut parler aussi de l'hôtel particulier, qui est un véritablement très bel hôtel. Mais alors le 13e,
Place d'Italie.
Alors là, Place d'Italie, il faut y aller. Là, parce que là, vous êtes quand même dans les quartiers, on va le dire, on va lâcher le mot une fois, on n'en parlera plus, on est quand même du côté de nos amis les bobos. 13e, ils ne sont pas encore là.
Mais ils ne sont pas encore là. Et pourtant,
ouais, le 13e.
Ils arrivent.
Ils n'arrivent pas.
Ils arrivent à Butte-aux-Cailles.
C'est vrai.
Non, mais c'est un quartier en pleine mutation. Quand on voit la Fondation Sédoux, quand l'ensemble des projets qu'il y a dans ce quartier, ils sont assez importants dans les trois prochaines années. Il y a surtout les Alfred Ciné, les 30 000 mètres carrés de start-up qui arrivent, qui sont à 500 mètres de l'hôtel. C'est aussi un quartier avec une très forte identité. Je reprends les mots de Valérie, parce qu'il y a des vrais gens, des vrais Parisiens dans le 13e et des vrais savoir-faire. Il y a l'école d'Estienne, il y a plein de...
Dans mon lycée, Claude Monet.
Ah,
moi aussi. Claude Monet, voilà, on peut le chicher. Voilà, moi je le dis. Oh non, je ne dis pas.
Effectivement, c'est inattendu. Effectivement, c'est un peu une mutation. Et c'est surtout hyper connecté et hyper pratique de tout Paris. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, mais la Place d'Italie, c'est le troisième axe de Paris. Et donc, on a toutes les gares en direct, on a tous les centres névralgiques de Paris. Donc, c'est un peu une enclave, pas dans le cœur de Paris, et dans lequel on a envie de venir se reposer.
C'est vrai, parce que le 13e, c'est étonnant. Hein. Il y a d'abord un vieux Paris, du côté de la rue du Château des Rentiers, justement pas loin du Square Choisy, de la lycée Claude Monet. C'est un vrai Paris. Il y a bien sûr cet exotisme à petite portée de métro, qui est le Chinatown. Et puis aussi toutes ces connexions avec les Gobelins, on est déjà presque dans le 5e. C'est vrai que c'est l'arrondissement qui peut-être gagne à être connu. Puis si on pousse plus loin, c'est quand même la très grande bibliothèque. Bon, Ouais, peut-être qu'il fallait avoir des beaux draps. Allez, on fait le tour des propriétaires. Là.
Alors justement, le coq-hôtel.
On commence par le coq-hôtel, allez, on rentre.
Vos draps, c'est assez marrant parce que le coq, non, ça, j'allais dire, ça n'a rien à voir avec les poules. Mais si, un petit peu quand même.
Il y a poulailler.
Il y a quand même un poulailler dedans, c'est ça qui est dingue. Mais coq, qu'est-ce que ça veut dire? Community of Quality Hotel
Paris.
Ah
oui, c'est bien, vous le dites bien. Je peux le dire avec l'accent français, c'est...
Ça, je peux le faire.
En fait, c'est un jeu de mots. Les mots, ils sont compliqués à trouver. Et en fait, on voulait traduire pour nous des vraies valeurs, on va dire, de communauté, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est comme des hôtels à vivre, à partager. Donc, il y avait ce côté communautaire de partage. La qualité, parce qu'on a eu une forte exigence sur tous les critères qu'on a voulu y mettre. Et après, donc, il y avait l'acronyme avec le référent du Galinacé qui représente notre pays. Étant donné qu'on a eu un sourcing très français, avec différents partenaires, volontairement pour appuyer, je crois que d'ailleurs, tout l'ensemble des partenaires, des hôtels, ont un peu, comme quoi, on est tous dans l'air du temps, on a envie de porter un étendard du savoir-faire à la française. Donc, voilà pourquoi le Coq, ça a regroupé ses différentes idées pour pouvoir le faire.
Voilà, le Coq, c'est comment vous définirez? On parle un peu tous de boutique hôtel, mais ça regroupe un peu tout et n'importe quoi. Maintenant,
D'abord l'esthétique. La première chose dont on arrive avant même l'humeur et le climat dans un hôtel, c'est quand même une esthétique. Alors, qu'est-ce qui a opéré? Quelle était la ligne de fuite pour dessiner, décorer ce Coq hôtel?
Alors d'abord, la première grande idée telle qu'on l'a voulu, elle est basée sur quoi? Je pense que le point commun de tous vos invités, c'est qu'on ne vient pas de l'hôtellerie. Moi, pour ma part, j'y suis depuis 4 ans. Donc, je ne suis pas depuis très longtemps, j'ai fait d'autres choses avant. Et donc, quand on a voulu se mettre dans l'hôtellerie, c'est par passion. Et c'est aussi de dire comment c'est l'hôtellerie et en quoi on peut apporter modestement quelque chose de différent. Et les 3-4 grandes idées, c'est donc la rupture, c'était de dire on veut des endroits de vie, pas simplement des gens qui viennent dans leur chambre, même si leur chambre est un endroit de rêve pour pouvoir le faire, donc un endroit de partage, un endroit où on casse les codes, donc pas de minibar qui sert à rien.
C'est ce que j'allais vous dire, vous avez un peu tous viré le minibar, allez hop, il n'y a plus de minibar, c'est plus l'histoire.
On préfère avoir au bar au rez-de-chaussée une sélection de 15-20 bonnes bouteilles, où le type, où le client, peut choisir son verre au verre, son vin au verre, avec des qualités, des produits français, du bon fromage. On veut revenir sur des notions un peu de maison d'hôte. Il faut dire aussi qu'on est dans un secteur qui a été pas mal attaqué par Airbnb ou ce type de choses. Donc, on veut offrir de la valeur ajoutée, de la vraie valeur ajoutée, de l'accueil. Et donc de la qualité, c'est pour ça aussi le nom, pour pouvoir le faire. Donc je ne sais pas si j'ai répondu.
On peut peut-être citer l'agence favorite avec qui vous avez travaillé pour la déco, parce que c'est vrai qu'un hôtel, c'est un propriétaire, c'est un concept, une idée, mais c'est aussi le savoir-faire de.
Bah, surtout que je suis emballé par leur travail. C'est encore mieux. L'agence favorite, c'est deux jeunes déco qui ont 30 ans, qui sont brillantes et qui sont très différentes. Et donc l'addition font 1+3 pour pouvoir bien le faire. Elles ont fait les Arts Déco, chez leur premier hôtel, elles avaient fait 3 restos avant, donc c'était une prise de risque. J'avais rencontré différents décorateurs avant et je voulais pas qu'ils aspirent trop le lieu. Je voulais que le lieu appartienne aux clients et donc que ça soit volontairement un travail collaboratif. Donc il y a eu pas mal de gens qui ont collaboré. Donc l'agence favorite a été là et a fait un vrai travail. Accompagné par le caractère technique, par des gens qui étaient capables de les accompagner sur leurs souhaits en termes d'exécution de travaux. Donc elles ont dessiné plus de 26 pièces, que ce soit du luminaire, du mobilier, différentes choses, ce qui était pour eux quand même formidable.
À 30
ans, c'était youpi. Donc on les accompagnait pour pouvoir bien le faire. Et puis sur l'identité visuelle, il y a aussi Laurent et Laurence, qui est une agence de design qui avait fait la Maison Favard, qui avait fait différentes choses.
Maison Favard, hôtel du côté de l'Opéra Comique à Paris.
Exactement. Donc ça fait une bonne équipe. On a tous travaillé. Ils ont travaillé en collaboration pour pouvoir le faire.
Alors, le 13e, on ne l'attendait pas, mais ils ont beaucoup parlé.
On va faire une petite pause.
Il dit plus un mot, le 13e.
C'est terminé. On a vendu le 13e arrondissement.
Je vais partir. Allez, don't disturb.
Allez, restez avec nous. Goodlux Paris continue sur BFM Business juste après la petite pause.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et des goûts de luxe hôteliers cette semaine. Boutique hôtel, hôtel de quartier, hôtel à thème, du 2e au 9e, du 13e au 18e. Petite balade parisienne. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Deslois, propriétaire du Coq Hôtel, de Olivier Carvin, président du groupe Maranatha, c'est le Déclic Hôtel, de Samy Marciano, c'est l'hôtel Bachaumont, et de Valérie Grégo, c'est le Pigalle, dans le 9e arrondissement de Paris. On continue notre petite tour de table avec la visite, Olivier Carvin. Le Déclic Hôtel, vous nous disiez tout à l'heure, ça va ouvrir incessamment sous peu. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ça parle d'appareils photo. En même temps, le nom l'indique assez bien, Déclic Hôtel. Sauf que vous poussez la thématique très loin. Parce qu'on l'a vu aujourd'hui, finalement, c'est ce qui sort de l'ordinaire. C'est ou de faire un hôtel avec une véritable histoire, ou aussi de faire les hôtels à thème. Alors, on en a vu, on en parle beaucoup durant toute l'année.
On a tous vu les hôtels dédiés au cinéma, les hôtels dédiés aux jeux d'échecs, les hôtels dédiés au théâtre, les hôtels dédiés à un studio de musique. C'est voilà. Étonnant. Alors là, la photographie.
On ne l'avait pas encore vu.
Oui. Alors, c'est la photographie, mais fait par les clients qui l'utilisent. C'est-à-dire, c'est eux qui vont se prendre en photographie dans leur chambre, ils vont se prendre en photo, ils vont jouer avec tout ce thème-là dans différentes thématiques de chambre. Il y a la chambre Polaroid, il y a la chambre photomaton, il y a la chambre noir et blanc. Donc, il y a tous des thèmes et toujours derrière l'expérience qu'ils vont vivre. C'est une expérience qu'ils vont vivre à deux sur cette prise de photo, pouvoir garder un souvenir de leur expérience. Mais ce n'est pas sur un thème de la photographie en tant que telle. On peut avoir des expositions de photos intérieures, par exemple. C'est le client qui va vivre.
Alors là, on rentre dans le studio photo, en fait.
Exactement. On rentre dans
le
studio
photo. Acteurs, ouais.
On est des acteurs de sa chambre. Voilà. Et on va vivre, en plus de la nuit d'hôtel, on va vivre une expérience dans la chambre personnelle avec le thème de la photographie et avec les différents types de photographies qui ont eu lieu à travers le temps.
C'est-à-dire qu'il y a de l'argentique et du numérique.
Exactement.
Donc ceux qui ont la suite argentique, s'il y a une suite argentique, eux, ils vont faire aussi les bains.
Non, ils vont pas jusque-là.
Ils développent eux-mêmes, ils font les tirages, parce que là, ça promet d'être long la nuit. Hein.
Non, ils vont pas aller jusque-là, mais ils auront leur souvenir de tout ce qu'ils auront pris comme photo dans leur soirée, dans leur nuit. Alors bien sûr, on est protégé par la CNIL, hein, donc ils vont. Tout est. Et en sortant, c'est pour eux, et c'est juste pour eux, ces photos, ouais. Hein, uniquement. Elles seront, bien sûr, que. Mais ça permettra de repartir avec un vrai souvenir sur le thème de la photo. De leur soirée, de leur nuit.
Du coup, il n'y a pas d'écran télé dans vos hôtels ?
Non, il n'y aura pas d'écran télé.
Parce que c'est pour les occuper, c'est vrai ?
Voilà, il n'y aura pas d'écran télé dans ces hôtels-là. Il y aura des écrans photos où ils pourront se visualiser les photos qu'ils ont prises, qu'ils ont envie de prendre, de reprendre.
Mais ça, c'est important aujourd'hui, dans l'hôtellerie contemporaine, de raconter des histoires comme cela et justement de capter une clientèle qui ne s'enfermerait pas. Justement, on parlait entre quatre murs. Et dans des beaux draps.
La personne qui va venir vient pour y dormir et elle vient donc à payer une prestation.
J'ai l'impression d'ailleurs qu'on peut tout y faire sauf dormir dans vos hôtels désormais. Il y a tellement d'activités.
Il y a quand même des bons lits, rassurez-vous.
Il y a des lits arrondis en forme d'objectif. D'objectif, exactement.
Ah, ouais.
Ah oui, il y a des lits en forme d'objectif.
Vous avez entendu le. Ah oui, quand on a parlé des lits.
Là, j'en ai parlé beaucoup parce qu'on a essayé de garder un petit peu secret tout ça, mais vous en avez en avant-première un peu tout ce. Voilà. Donc, ils vont aussi. Payer pour un service qu'ils ne pourraient pas avoir ailleurs. C'est dormir, on paye pour dormir, mais aussi on paye pour quelque chose, on repart avec toute une histoire, tout un souvenir, mais sur son histoire personnelle du couple qui va venir, pas sur une histoire d'autres personnes qu'on va voir par des galeries photos. Encore une fois, on a notre thème sur les couples amoureux, donc on envoie des photos de Victor Hugo, on voit des photos d'autres personnes. C'est pas ça. Là, c'est eux-mêmes, leur histoire, et l'outil, l'appareil photo, va leur permettre de faire vivre à ce couple une histoire sur une nuit, sur deux jours, sur une journée.
Les appareils photo, les boîtiers, vous êtes associés à quelle marque? C'est des Leica, tout ça? Ils sont verrouillés? Parce qu'il y en a qui vont partir avec.
C'est ça,
ils sont pris dans des grands.
C'est ça, tout est prévu.
Dans des posters, voilà, des grands écrans, et donc, oui, tout est prévu, tout à fait.
C'est l'hôtel le plus délicieusement voyeur de la capitale.
Sauf que personne, à part le couple, pourra voir.
Oui, vous êtes dedans, vous faites bien de le dire, c'est vraiment protégé.
Ah non, c'est très, très protégé. La CNIL, le cahier des charges a été très dur et normal. Donc nous, en tant qu'hôteliers, on ne saura rien de ce qui se passera à l'intérieur. On expliquera comment ça fonctionne, on laissera faire. Ils vivront leur expérience à deux. Et puis après, ils repartiront avec leurs souvenirs.
Allez, on passe d'une clinique à une autre. Bah oui, parce que vous êtes
c'est ex-clinique.
Ex-clinique. Oh là là, c'était pour la petite anecdote au Bachaumont. Ce qui est vachement marrant, Samy Marciano, c'est que finalement, certains Parisiens, notamment, n'ont même pas vu encore que c'était un hôtel. C'est-à-dire que vous avez tellement développé le restaurant, le bar fort sympathique, où il se passe plein de choses pour les habitants du quartier Montorgueil, et le lobby, finalement, il est planqué au bout.
Eh bien oui, c'était ça le succès, le secret. On a fait un lieu de vie, on n'a pas fait un restaurant dans un hôtel, on a fait un hôtel dans un restaurant. Alors on a mis en avant tout le lieu de vie qui permet aux Parisiens de venir renouer avec les sorties dans un hôtel agréable, parisien, dans le coup. Et j'ai, moi-même, je me suis fait un pari de pouvoir faire venir tous les gens les gens du Triangle d'Or pour qu'ils viennent découvrir ce quartier et qu'ils voient que c'est un endroit où on peut passer une super soirée. Et c'est ce qui se passe.
Et l'hôtel, il ressemble à quoi alors, quand on finit par monter à un moment donné?
L'hôtel, c'est le reflet du bas. Il a été décoré par Dorothée Mélisson, que je suis très
contente. Une vraie référence, maintenant.
Absolument,
hein,
absolument. Elle a été décorée en la meilleure designer de l'année par Maisons et Objets.
Elle fait pas mal de restaurants également.
Et croyez-moi que c'est mérité. Et dans le casting, on a monté tout un casting. C'est un travail d'équipe. J'ai fait équipe avec toute l'équipe de Experimental Club. Pour le côté bar, restaurant. Et ça nous a fait toute une équipe. Chacun a porté son expertise. Et on est très contents du résultat.
On est dans l'esprit très parisien.
Absolument.
C'était très mode. On voit que Montorgueil devient le nouveau quartier de la mode.
Absolument. Le pitch, il était très clair. La première fois que j'ai rencontré Dorothée, c'était « je veux garder un esprit très parisien ». Très, très. On revoit tous les codes parisiens. Il y a un peu de l'art déco, c'est vraiment, on a gardé l'hôtel dans le jus de la rue et on n'a pas voulu du tout venir l'agresser avec des ambiances d'ailleurs.
Mais d'ailleurs, la façade de l'hôtel, c'est la vitrine du restaurant.
Absolument.
On voit le restaurant
absolument
à manière de brasserie mondaine. D'un autre côté, il y a le petit bar. Et puis, on est dans l'esprit Montorgueil. C'est d'ailleurs les petits pavés. C'est une de ces petites rues avec presque un dessin de santé.
Mais la rue, elle est tellement belle qu'il faut vraiment, vraiment être un. Il faut la garder dans son jus.
Et comme vous êtes un enfant du quartier, un enfant
absolument,
du sentier,
absolument.
Je crois que vous avez d'autres projets justement dans le quartier.
Oui, alors on a un autre projet qui est pas loin, à la rue Saint-Martin avec la rue Romur. Et ça, c'est le siège où j'avais toute ma carrière, je l'ai fait là. J'ai démarré en 82 à la rue Saint-Martin. J'ai déménagé à la rue Romur et maintenant j'ai regroupé les deux immeubles et je fais un hôtel là-bas avec tout à fait en gardant exactement l'esprit. On s'est beaucoup inspiré de la CNAM, de l'église en face et de tout le quartier qui est magnifiquement beau. On a le Beaubourg sur notre gauche. L'ouverture, elle est prévue pour le mois de décembre prochain.
Alors, très bien, on va parler de celui qui vient d'ouvrir aussi, le Pigalle. Là, c'est vrai que encore plus que Paris. C'est véritablement Pigalle que vous infusez dans l'hôtel. Et les gens qui sont autour, vous collaborez finalement, Valérie Grégo, avec une trentaine de personnes qui font ce quartier-là.
L'idée, c'était vraiment de parler du quartier, quoi. Et on s'est posé souvent la question de savoir comment parler du quartier et de l'interprétation qu'on pouvait en donner. Et la meilleure réponse qu'on a trouvée, ça a été de dire, en fait, c'est un collectif. C'est un collectif de quartier, cet hôtel. C'est une plateforme de collaboration. Donc, toutes les expériences que les clients, qu'ils soient clients de l'hôtel ou clients du quartier, puisque, comme mes camarades, on est autant un hôtel qu'un restaurant, ou qu'une boîte de nuit, ou qu'un lieu de vie. L'expérience que nos clients ont, c'est une expérience avec quelqu'un du quartier. Donc, la personne qui fait la musique, c'est un DJ du quartier. Les fleurs, c'est le fleuriste. Le pain, c'est la boulangerie. Le fromage, c'est le fromager. La presse, c'est le kiosque. Voilà.
Le
quartier collabore dans l'hôtel. Et du coup, voilà, c'est le quartier qui est là avant tout et qui est mis en avant, la musique.
Et des choses touchantes, je crois aussi, parce que pour la décoration, et on parlait de photographie, il y a aussi beaucoup de beaux clichés, et je crois que ce sont des photographes, et pour certains des photographes pointus du quartier. Il y a aussi une histoire pour les vêtements, l'uniforme entre guillemets du personnel a été retouché par une petite main du quartier.
On a travaillé avec tout un tas de collaborateurs, dont des artistes, dont des photographes, dont des illustrateurs. La règle, c'était vous êtes du quartier, vous êtes légitime, parlez-nous de Pigalle et revenez avec ce que vous voulez nous raconter. Donc certains ont dessiné, certains ont photographié, certains ont sorti des vieilles photos qu'ils avaient. Et on a fait un uniforme avec une fille du quartier. Et on l'a donné à faire à la couturière de la place Toudouze, quoi, qui a fait des petits patchs.
Vous avez fait travailler combien de personnes
on a une trentaine.
C'est absolument génial.
L'idée, c'est vraiment l'ancrage. C'est vraiment l'ancrage. C'est que ce que vous vivez du quartier, c'est pas une reproduction par l'hôtel, c'est en direct le...
Et d'ailleurs, quand on est dans l'hôtel, un mot quand même du décor, du coup, on a vraiment l'impression que quelqu'un d'autre vient de claquer la porte. On parlait d'écran télé tout à l'heure, il y a que des bouquins, il y a des platines vinyles, c'est une pile de bouquins, hein. C'est vraiment, on est, quand on dit vraiment maison d'hôte, là, on est vraiment dans cette idée-là, quoi.
On est chez soi.
Comme chez soi,
ouais. On est chez soi.
Il y a rien d'uniforme, les chambres sont vraiment différentes, les meubles chinés, c'est ça, vous avez même travaillé.
On vient y faire ce qu'on a envie d'être venu y faire. À 10h du matin, on prend un petit déj. À 2h du matin, on peut dîner. Tous les jeudis soirs, on fait une soirée avec un DJ. Vous êtes dans la chambre, vous pouvez écouter des disques qui ont été choisis par quelqu'un, des pensées. Vous pouvez lire des bouquins qui viennent de la librairie des Arpenteurs. Vous allez boire un jus qui est fait de Pigalle.
On peut réserver la chambre à la journée?
On peut réserver la chambre à la journée, oui.
Quand on a des lieux comme cela, effectivement, ce qu'on a envie de faire, c'est d'y passer du temps du matin au soir.
On a fait une résidence de collaborateurs, comme on faisait des résidences d'artistes. C'est-à-dire que tous les collaborateurs ont une chambre gratuite à disposition dans l'hôtel tous les jours.
Ah oui.
Une chambre. Du jour pour le lendemain, ils peuvent appeler et dire est-ce que la chambre des collaborateurs est libre ? Et si elle est libre, elle est pour eux. Et ils séjournent. Donc presque tous les jours de la semaine, il y a un des collaborateurs qui est là. Donc en plus de ça, en plus de rencontrer ce qu'ils font, en général, vous pouvez interagir avec eux parce qu'ils sont dans le lieu, quoi.
C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une vraie dynamique de l'hôtellerie parisienne incarnée par les palaces. Et Dieu sait si on a fait des émissions et on va en faire encore. Mais aujourd'hui, avec une nouvelle génération d'hôtels et surtout qui arrive encore à se réinventer par les quartiers, comme on l'a vu, et puis par des concepts. Alors j'aime pas le mot, mais il a parfois son utilité. On a vu tous ces hôtels à Athènes se réinventer. Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'hôtel Pigalle, c'est que tout ce que vous venez de dire existe, mais rarement l'humain. Ce qui faisait l'humain d'un quartier, l'humanité, on a vu l'architecture, le décor, tout ça, vous savez bien le faire. Ici, il y a cette petite dimension d'humain qui vient investir. Et quand on hôtel, on aime bien dire que des hôtels retenus avec Paris et les Parisiens, là, c'est sincèrement très, très vrai. C'est vrai aussi au Bachaumont avec les Nodeux.
C'est vrai que c'est une démonstration de ça.
C'est assez impressionnant de voir tout un quartier comme ça s'ébrouer autour d'un hôtel.
Bah, c'est des histoires humaines qui se sont nommées avec chacun de ses collaborateurs.
Ça nous
a amené dans des endroits qu'on soupçonnait pas, quoi, de générosité de leur part, d'interventions multiples. Encore maintenant, ils apportent des dessins, ils apportent des gâteaux. Enfin, c'est assez chouette.
Ouais, et voilà, et Parisiens, allez découvrir vos hôtels, en fait. C'est le mot aussi qu'il faut dire. Oui. Il n'y a pas que les étrangers qui ont le droit
y danser, y boire avec modération, y déjeuner, y dîner, petit déjeuner.
Y dormir, même.
Et surtout, oui, quand même, parfois, peut-être un peu y dormir.
En tout cas, aujourd'hui, on vous a fait découvrir 4 d'entre eux grâce à Michel Deloye. C'est le Coq Hôtel. Je redonne toutes les adresses vite fait. 15 rue Édouard Manet, c'est dans le 13e à Paris. Merci infiniment à vous. Olivier Carvin, Déclic Hôtel, 17 rue du M, dans le 18e. Merci beaucoup. Samy Marciano, 18 rue Bachaumont, 2e arrondissement, c'est l'hôtel Bachaumont. Et donc, le Pigalle, Valérie Grégo, merci beaucoup à vous. C'est 9 rue Frochot, dans le 9e arrondissement de Paris. Merci beaucoup à tous les 4, messieurs. Restez avec nous. Goodlux Paris continue dans un instant. Ah, peut-être, Marc, sur BFM Business. À tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Allez, un dernier hôtel très particulier dans un instant dans Goodlux. Et puis notre nouveau rendez-vous, la chronique high-tech, le nouveau livre de la semaine. Emmanuel, regardez, je vous offre une médaille.
C'est quoi cet objet?
C'est une médaille en chocolat. Non, c'est pas vraiment une médaille en chocolat. En fait, c'est un livre.
Une médaille, en tout cas.
Si je vous dis médaille, ça vous fait penser à quoi?
À la
Et si je vous dis hôtel particulier, bah ouais, la Monnaie de Paris. Et la Monnaie de Paris, elle a sorti son petit ouvrage, 1150 ans d'histoire, qui est à l'intérieur d'une grande médaille. Et parce que caché sous l'ouvrage, qu'est-ce que vous avez? Une véritable médaille tirée à quelques exemplaires seulement. Donc dans cet ouvrage réalisé par Nicolas Destienne d'Or, en tout cas écrit par Nicolas Destienne d'Or, réalisé par les éditions Albin Michel, on revient sur toute l'histoire de cet établissement fondé en 864, bâtiment en 1775. Sauf que si on sort aujourd'hui ce bouquin, vous savez que la Monnaie de Paris, on vous en parle régulièrement dans Goodlux, est en pleine transformation. Et en attendant ce fameux projet Métamorphose que l'on vous propose dans ce bouquin qui est très très bien illustré, pas mal d'iconographie aussi bien ancienne que sur ce que va devenir ce bâtiment, sur ce que l'on y fait, parce qu'on oublie, on y produit toujours. Donc ce genre de médaille.
On y bat monnaie.
On y bat monnaie, des monnaies exceptionnelles. On y fait de la fonderie, on y fait encore plein de choses. Et on revient sur ces savoir-faire que l'on y trouve, la gravure, la frappe, la fonderie, sur les trésors que l'on y trouve, les personnages. Voilà.
Non, mais c'est vrai. Alors, deux choses. D'abord, c'est un superbe lieu architectural. On oublie effectivement, depuis quelques saisons, depuis que l'architecture a repris le dessus, que derrière, il y avait véritablement des corps de métier. Et un petit mot tout de même. Très souvent, ce genre de beau livre, ma foi, ce feuillet, c'est le charme du papier glacé et des belles illustrations, mais le texte est un peu en deçà. Ils ont fait vraiment appel à un grand écrivain, Nicolas Dessendorf, qui connaît parfaitement Paris. Il a d'ailleurs sorti au mois de novembre, vous savez, dans la collection chez Plomb, des dictionnaires amoureux, un dictionnaire amoureux de Paris épatant. Et là, on sent qu'il s'est imprégné des lieux et qu'il y a aussi une qualité d'écriture. Bel objet. Bien vu, vous commencez bien l'année.
Ah, merci, j'ai ma médaille. J'ai le droit à ma médaille en bronze florentin tirée à 7500 exemplaires. Merci Emmanuel. Allez, la nouvelle chronique high-tech.
BFM Business, Goodelux Paris, l'édition du week-end.
Christopher Siminelli, bonjour.
Bonjour Karine.
Vous êtes de la maison de 01net.com et tous les mois, désormais à partir de 2016, vous viendrez nous tenir un petit peu au courant de ce qui se fait sur la planète high-tech. Alors là, on est bien parti parce qu'en ce début 2016, eh bien, c'est le CES de Las Vegas. Et alors là, ça a commencé à tomber cette semaine. On commence par une voiture.
Ouais, on commence par une voiture. Alors le CES, ça fait une vingtaine d'années que ça existe. C'est vraiment le gros salon des nouvelles technologies qui donne un peu le rythme des 12 prochains mois de l'année. Donc un événement évidemment très attendu dans notre écosystème des
Consumer Electronics Show.
Oui, et c'est vrai que la voiture se fait de plus en plus connectée. Il n'y en avait pas du tout à l'époque, hein, ces dernières années au CES. Là, on en voit de plus en plus. Tous les gros constructeurs sont là, dont un mystérieux qui faisait beaucoup parler de lui ces derniers mois, qui s'appelle Faraday Future. Alors qui est là pour concurrencer véritablement Tesla, que tout le monde commence à bien connaître, qui est la référence sur les voitures électriques. Et donc Faraday, on connaît rien de ses investisseurs, on connaît pas grand chose de ses projets, si ce n'est qu'ils ont une usine à $1 milliard. Et là, enfin, au CES, ils ont montré leur première voiture, leur savoir-faire. Alors, je vous avoue que ce qu'ils ont présenté a surpris beaucoup de monde. On va le voir à l'image. C'est un concept car baptisé FF01, non, rien à voir avec 01net, hein, mais FF01, c'est un peu une Batmobile. Alors,
c'est ça, c'est un bolide.
Voilà, un bolide, 1000 chevaux sous le capot, elle va de 0 à 100 km/h en 3 secondes, ce qui est juste... qui est juste incroyable. Et regardez les lignes de cette voiture, on l'imagine parfaitement bien en 24 heures du Mans. D'ailleurs, c'est une monoplace. Alors, pourquoi ça a surpris? Déjà parce que voilà, la forme est étonnante et puis on imagine mal que cette voiture battra un jour le pavé parisien. En plus, vu la hauteur du châssis, on aura beaucoup de mal à sortir d'un parking souterrain.
C'est presque un vaisseau spatial.
C'est presque un vaisseau spatial.
C'est vrai que c'est étonnant.
Voilà, c'est une monospace et surtout Faraday avait dit, on est des concurrents de Tesla et on va sortir des voitures pour tout le monde, des voitures grand public. Et là, on en est quand même moins. Surtout qu'ils ont promis une voiture commerciale en 2017. Donc là, on est quand même loin de la Smart ou de la Clio.
Ouais, hein. Mais dans Goodlux, ça nous va bien. Donc
voilà,
ça, c'est
vrai. Dans toutes ces marques, hein, Tesla, ça rend hommage à Nikola Tesla. Faraday, si à chaque fois qu'il crée une marque d'automobile électrique en rendant hommage aux grands ingénieurs, aux grands savants historiques, ça nous promet quand même pas mal de collections.
On n'a pas encore de prime, on imagine que ce sera assez élevé. Petite précision enfin, Faraday est très porté sur les nouvelles techno et ils ont promis que ce serait la voiture la plus high-tech du monde.
Ah super, on n'a pas fini d'en entendre parler. On va redevenir un petit peu terre à terre, mais ça concerne tout le monde, le frigo high-tech.
Oui, c'est vrai que le frigo, bon, vous voyez dans des films de science-fiction, dès qu'il y a quelques années, on imaginait la cuisine du futur, tout serait connecté. Et finalement, bon, notre frigo, aujourd'hui, je ne sais pas vous,
mais
notre frigo,
connecté,
il reste encore tout à fait classique.
Vide.
Et là, pas du tout. Là, c'est un frigo de compète.
Alors, compète, mais est-ce qu'il a. Je pense pas qu'il arrive à la cheville de celui-ci. Alors, c'est Samsung qui vient de le présenter au CES encore une fois. Samsung vraiment veut vraiment s'imposer sur l'électroménager connecté. Donc, ce frigo, il est totalement incroyable. Il est équipé d'un écran de 21,5 pouces en façade. Alors sur cet écran, qu'est-ce qu'on a? On peut afficher des photos. Vous savez, des petits post-it qu'on a l'habitude de mettre aussi sur le frigo. Donc là, ce seront des post-it numériques. On pourra les afficher à l'écran en permanence. On pourra aussi diffuser des chaînes de télévision. Et surtout, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, on pourra visionner ce qu'il y a dans le frigo.
C'est-à-dire le contenu.
Exactement. Ce frigo, il est équipé de 3 caméras qui prend des photos. Dès que vous ouvrez la porte et que vous le fermez, il prend une photo avant et après, et il fait un peu un état des lieux, ce qui fait que vous pouvez suivre à tout moment
ce qu'il y a dans votre frigo. La fameuse glace.
Et via une application sur votre smartphone, vous êtes en train de faire vos courses, vous dites, est-ce qu'il me reste des œufs, est-ce qu'il me reste du beurre? Et là, à distance, vous pouvez consulter l'intérieur de votre frigo.
Ça prend en compte toutes les dates de péremption, tout ça?
Alors, oui, mais ils n'ont pas encore expliqué comment. Et ça, c'est vrai que, et c'est vrai que c'est quand même compliqué. On parlait de tags RFID, vous savez, ces petits tags qu'on met dans les objets qui permettent de communiquer des informations. Là, on voit pas, on a du mal à voir comment ces caméras peuvent scanner, trouver la date sur les produits.
Mais
en tout
oui,
cas,
mais...
en tout cas, c'est prévu. On ne sait pas encore trop comment ça va se faire concrètement. Mais en tout cas, ça fait envie.
Il y a un bac à glaçons quand même.
Il y a un bac à glaçons.
Ça fait comme les frigos américains.
Tout à fait classique. Ah si, petite aussi, petit gadget. On peut diffuser de la musique. Il y a des enceintes intégrées. Donc,
en plus,
ça envoie du son. Ça envoie du son. Vous pouvez envoyer de la musique sur votre frigo.
Allez, on accélère un petit peu. Christopher, deux jolis joujoux. La Huawei Watch G-World, si j'ai bien compris. Ça parle joaillerie et connexion.
Oui, alors Huawei, c'est un fabricant de smartphones, d'électronique chinois qui était très peu connu, mais là qui commence vraiment à s'imposer. Tout le monde dit que c'est le nouveau Samsung et ils veulent surtout se mettre sur le créneau du haut de gamme. Donc là, ils viennent de lancer une nouvelle version de leur Watch, donc c'est une montre connectée. Joel, en partenariat avec Swarovski, on y trouve 68 zirconiums de 1,5 mm, un boîtier en plaqué or rose.
Sûr qu'elle a de l'allure, elle ressemble bien à une montre connectée.
Ouais, c'est ça. C'est vrai que les montres connectées, c'est plutôt des objets pour geeks. Là, on est dans un objet très féminin. D'ailleurs, c'est vraiment un objet dédié à la cible féminine. Et c'est pas si cher que ça. Si on regarde un peu les tarifs, elle est à 599 €.
C'est pas cher quand ça sort,
Et ça sort là, au premier trimestre 2016.
Ah, ça arrive vite en plus. Huawei Watch Jewel.
Allez,
pensez-y pour la
route,
Saint-Valentin, par exemple. Et puis un dernier, un cadeau pour messieurs, un chargeur étui pour iPhone de rigueur.
Oui, alors pour iPhone ou bien de n'importe quel smartphone, c'est une boîte française qui fait ça, qui s'appelle de rigueur.
Donc c'est génial, sympa, déjà comme nom.
Made in France, designé en France. Alors, c'est vrai que les batteries de nos smartphones sont un peu light, on a du mal à terminer la journée. Pour avoir un peu plus d'autonomie, on passe par des batteries externes. Franchement, c'est moche, c'est pas pratique, on est obligé de se balader avec un smartphone. Et là, donc cette boîte qui s'appelle De Rigueur a, semble-t-il, trouvé une solution à la fois chic et pratique. Donc voilà, un étui en cuir d'un plus bel effet avec deux batteries intégrées. Donc si votre smartphone est compatible avec la charge à induction, vous savez, la charge sans fil, de plus en plus de smartphones font ça. Il suffit de glisser votre smartphone dans l'étui et il se recharge. Super pratique, c'est plutôt beau.
Voilà. Bon sens.
Donc, c'est
la force des évidences.
Et puis, on n'a pas encore les tarifs, mais on sera très loin de la voiture de Faraday, on sera très loin du frigo de Samsung, ça, c'est sûr.
Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Merci infiniment, Christopher Siminelli de 01net.com. J'imagine qu'on aura d'autres nouveautés. Ça va encore pleuvoir.
On va la suivre, celle-là.
Allez, vous restez encore deux petites minutes avec nous, c'est l'heure de la journée.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Emmanuel, un grand retour à Paris. Vous avez commencé par
la sensation de la rentrée parisienne. Le retour à Paris de Nobu Matsushita. Vous savez qui est Nobu Matsushita? C'est l'un des chefs les plus célèbres au monde, une véritable star du food biz. Alors, il a deux enseignes. La première, c'est Nobu. Vraiment, tout ce que le people et la peoplerie, lorsqu'elle passe à table à New York, à Londres, on va chez Nobu. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de restaurant Nobu à Paris parce que lorsqu'il est venu il y a quelques saisons du côté des Champs-Élysées, ça avait été un échec patent, total. Donc il avait dit toutes les villes du monde sauf Paris. Il a une deuxième enseigne, beaucoup moins mondaine, beaucoup plus gastronomique, qui s'appelle justement de son nom de famille Matsushita. Alors il est célèbre pour sa cuisine fusion entre la cuisine nippone et la cuisine sud-américaine. Et là, dans ce restaurant-là, on est un peu plus haut de gamme. Et donc, il revient à Paris cette fois-ci avec cette seconde enseigne, Matsushita. Il s'installe dans un palace, c'est toujours plus simple, il prend pas tous les risques comme ça. Le palace s'appelle le Royal Monceau. Il y avait un restaurant qui s'appelait La Cuisine. Il ferme les portes. Remplacé donc par ce restaurant, j'ai y arrivé, Matsushita. Ça commence début février. À mon sens, vous vous connectez sur le site du Royal Monceau. C'est maintenant qu'il faut prendre vos réservations parce que pendant un mois, ce ne sera pas possible.
Eh bien, on va continuer comme ça à voyager.
Enfin, Nobu et Paris vont se réconcilier.
Ai Weiwei, ça vous dit quelque chose? Un grand artiste, bien sûr.
Un artiste chinois.
Au bon marché. Et ils se sont dit, le mois du blanc, on va lui donner carte blanche. C'est un joli jeu de mots. Et donc, à partir du 16 janvier jusqu'au 20 février, il lui donne carte blanche pour refaire tout le bon marché et pour l'illustrer et pour l'agencer et pour choisir des objets. On peut pas tout vous dévoiler encore. Il faudra aller voir puisqu'il s'inspire du livre des Monts et des Mers. C'est un ensemble de contes et légendes antiques que tous les enfants chinois connaissent. C'est très populaire. Et donc, à partir de ça, il est parti sur un décor absolument incroyable qui sera donc bientôt à découvrir au bon marché Rive Gauche. Et pour le reste, on va s'arrêter là parce qu'on n'a plus de temps, Emmanuel. Donc,
J'avais travaillé, moi, pendant les fêtes. C'est pas grave, à la semaine prochaine.
Ah, parce que vous travaillez donc en 2016, c'est la bonne résolution.
Voilà, c'est bon, ça.
Merci infiniment, Emmanuel. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit,
semaine, hein,
même heure.
Parce que vous, il s'agit de se remettre au boulot dès demain.
Voilà. Et puis, Good Luxe Paris, allez, le best-of de la semaine, tout de suite.